racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas que dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Un drôle d'épisode, une quantité de questions qui nous viennent peut-être à l'esprit en lisant ces versets. Je me souviens d'une amie il y a un certain temps qui me disait que c'était un des textes qui l'a troublé le plus dans la Bible. Comment comprendre l'attitude de Jésus vis-à-vis de ce pauvre figuier qui ne portait pas de figues, tout simplement parce que ce n'était pas la saison. Ensuite, comment expliquer la violence, faut-il dire, ou en tout cas l'usage de la force par Jésus lorsqu'il chasse les marchands du temple? Et puis, qu'est-ce qu'il leur reprochait, finalement, exactement? La confusion peut s'accentuer lorsqu'ensuite on revient à l'épisode du figuier au verset 20. Comment comprendre que Marc, contrairement par exemple à Matthieu, qui raconte dans son évangile le même épisode en une seule fois, Marc le divise en deux et au milieu, il parle de l'action de Jésus dans le temple, entre les deux épisodes. Pour aborder ces questions, je vous propose de réfléchir à ce texte en deux temps, deux signes et ensuite deux leçons. Donc ça, c'est les deux points, deux signes d'abord et ensuite deux leçons. Deux signes. Alors, il est utile de mentionner ce qui précède notre texte. Jésus vient d'arriver la veille à Jérusalem. Et en fait, il ne quittera plus cette région avant sa mort et sa résurrection. Lors de son entrée à Jérusalem, Jésus a été acclamé par une foule de pèlerins qui, comme lui, arrivaient à Jérusalem depuis la Galilée pour fêter la Pâque, grande fête juive. Il est probable que, contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas vraiment le même public, en tout cas pas majoritairement le même public, qui acclame Jésus à son entrée à Jérusalem et qui, une semaine plus tard, réclame son exécution. Ceux qui ont acclamé Jésus, si on regarde bien le texte au début du chapitre, sont plutôt... Alors le texte nous dit qu'ils viennent de la campagne. Pour la plupart, ils viennent de la Galilée, sans doute. Et ils ont vu Jésus accomplir de multiples miracles. Ils accompagnent Jésus lors de son entrée à Jérusalem, plutôt qu'ils ne l'y accueillent. Jésus, donc, vient d'arriver à Jérusalem. Il est acclamé donc par certains, mais il est rejeté par d'autres. Et puis le verset 11 nous indique qu'il est retourné pour une nuit à Béthanie, c'est un village qui était à proximité de Jérusalem, de l'autre côté du mont des Oliviers. On sait par ailleurs, notamment par l'évangile de Jean, que Jésus avait une sorte de pied-à-terre à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie. Et donc c'est sans doute là qu'il s'est rendu pour passer la nuit. Et au verset 12, nous retrouvons avec Jésus et ses disciples le lendemain matin. Donc ils ont passé la nuit à Béthanie et ils retournent à Jérusalem. Et c'est là que survient cet épisode intrigant. Verset 13. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Eh oui. Alors, je ne sais pas s'il y a des botanistes parmi nous. Apparemment, cet épisode est botaniquement correct. Nous sommes au milieu donc, de la semaine de la Pâque. Dans le calendrier juif, c'était le mois appelé Nisan, c'est-à-dire à peu près fin mars, début avril. Et donc, on est au printemps. Et à cette époque, dans cette région, un figuier peut avoir des feuilles, mais pas encore de fruits. En tout cas, pas un fruit mûr et mangeable. Donc un détail qui montre également l'authenticité qui ressort de notre récit. Normalement, c'est vrai qu'un figuier qui a des feuilles, bah ça semble indiquer qu'il porte du fruit. Mais à cette époque précise de l'année, les feuilles qui sont revenues avec le printemps peuvent donner l'illusion d'un arbre qui porte du fruit alors qu'il n'en porte pas encore. J'ai fait de longues études pour bien examiner cela, je plaisante. Et pour beaucoup de commentateurs, Jésus a cru, en voyant l'arbre de loin, qu'il y aurait peut-être des figues. Et il a été déçu en arrivant sur place et en découvrant qu'il n'y en avait pas. Sous le coup de l'émotion, de la déception de ne pas trouver de quoi manger, il aurait alors prononcé une sorte de formule de malédiction. Que plus personne, que plus jamais tu ne portes de fruits. Alors je pense qu'on peut à la limite soutenir ce genre de raisonnement d'un point de vue évangélique, d'un point de vue qui fait confiance pleinement à l'autorité de la Bible, également à la divinité de Jésus, parce que Jésus a volontairement choisi et assumé les limites de sa nature humaine dans le cadre donc de son ministère sur terre. Et d'ailleurs, le simple fait qu'il avait faim prouve cela. Jésus, par ailleurs, peut dire, par exemple, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour, et il rajoute « pas même le Fils ». Et il s'exprimait là en tant qu'homme, dans le cadre des limites librement acceptées de sa nature humaine avant la résurrection. Alors c'est un peu complexe tout cela, il y aurait toute une réflexion trinitaire à avoir à ce sujet, ce serait un autre sujet, donc je ne vais pas plus loin là-dedans. Tout simplement pour dire que ce n'est pas choquant en soi de penser que Jésus a eu faim, s'est approché d'un arbre pour manger et a constaté qu'il n'y avait pas de fruits. Une autre manière cependant de voir les choses, c'est de considérer que Jésus en réalité savait très bien ce qui allait se passer, qu'il a en quelque sorte donné l'impression d'aller chercher des figues pour donner un signe à ses disciples qui étaient mûrement réfléchis. Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pouvait à n'importe quel moment faire appel à son omniscience divine. Là encore, on est dans le mystère de la réalité de Jésus-Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, mystère particulièrement fort dans le cadre de son ministère sur terre avant sa mort et sa résurrection. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus est pleinement conscient du caractère pleinement symbolique de ce qu'il va faire ensuite. Parce qu'évidemment, il y a ici un signe. Marc a composé l'évangile le plus bref. Il a soigneusement choisi donc les extraits dont il voulait parler. Il ne gâche pas d'espace dans son évangile. Et pourtant, il choisit de raconter cet épisode qui, à première vue, peut paraître un peu anecdotique ou étrange. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce que Marc en parle ? Et c'est là, il me semble, que la structure en sandwich, entre guillemets, de ce passage prend tout son sens. Cet étrange placement de l'épisode des marchands du temple entre les deux épisodes autour du figuier. Jésus constate que le figuier, symboliquement parlant, il ne remplit pas sa vocation, parce qu'il ne porte pas de fruits. Jésus n'était pas ignorant de la réalité des saisons. Il est Dieu. Et quoi qu'il en soit, c'était bien une réalité très connue dans son contexte. Donc l'idée ici n'est pas qu'il s'énerve contre le figuier parce que le figuier ne porte pas de fruits. Rappelons que le figuier n'a ni esprit ni volonté. Jésus en est parfaitement conscient. Par contre, il y a là un symbole qui prend tout son sens. Celui qui devait porter du fruit n'en porte pas. Et par conséquent, il devra subir un jugement. Il ne portera plus de fruits. Son temps est révolu. Verset 14. Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Le lendemain, alors que Jésus et ses disciples refont le même chemin, après être retournés à Béthanie passer la nuit, eh bien, ils passent à côté du même figuier. Rien d'étonnant, c'était sans doute le chemin qui allait de Béthanie à Jérusalem. Et Pierre, l'un des disciples, constate qu'effectivement, le temps du figuier est révolu. Il est tout flétri. Verset 21, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Pierre constate que la parole de Jésus a été efficace et que le verdict prononcé sur ce figuier s'est déjà accompli. Il est tout flétri. Maintenant, venons-en à l'autre signe qui nous est raconté ici, ce qu'on appelle traditionnellement la purification du temple. Jésus donc arrive dans le temple de Jérusalem. Alors déjà, la veille, le texte nous indique qu'il avait repéré les lieux en quelque sorte, et il va accomplir cette fois un acte symbolique. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille voir ici une sorte de coup de colère, fût-elle une sainte colère, un coup de colère de Jésus. Je pense que son acte était prémédité, parce qu'il s'agissait d'un signe pleinement assumé. Il est certain que l'émotion de Jésus au moment de cet acte est réelle, mais il savait parfaitement ce qu'il faisait. Ce n'était pas quelque chose d'improvisé sous le coup de la colère. Alors, à quoi est-ce que cette scène a ressemblé exactement? Combien de temps est-ce que ça a duré? On ne le sait pas. On peut se demander si Jésus a, est-ce qu'il a expulsé tous les marchands du temple sans exception, ou est-ce que c'était plutôt une sorte d'échantillon représentatif à un endroit particulier? On peut se poser la question éventuellement, mais le verset 16 nous dit tout de même qu'il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Est-ce que Jésus s'est montré violent? Je ne pense pas que ce mot convienne, mais il a agi avec autorité, avec force. Et je pense que dans un sens positif, cette scène doit nous choquer. Elle doit nous interpeller par son caractère inattendu et saisissant. D'abord, exit l'image d'un Jésus toujours tout doux, toujours gentil au possible, l'image que véhicule notre culture, un Jésus qui ne saurait parler que d'amour et, en plus d'un amour un peu mièvre, et que de paix. C'est vraiment pas le Jésus que nous présente la Bible. Et si Jésus a pu parler authentiquement d'amour et de paix, c'est aussi parce qu'il est celui qui s'est opposé puissamment au mal, comme on le voit ici. Mais on se pose la question suivante. Qu'est-ce que Jésus reprochait aux marchands du temple? Après tout, ce qu'il vendait, c'était les animaux qui étaient apportés en sacrifice, selon la loi de Moïse. Quant aux changeurs dont il est question au verset 15 et 16, en fait, ils avaient pour rôle d'échanger la monnaie romaine, qui était utilisée quotidiennement, de l'échanger avec une monnaie spécifique qui était utilisée dans le temple. Tout simplement parce qu'il était hors de question pour les Juifs d'utiliser la monnaie de l'occupant, la monnaie païenne, pour les activités du culte, les activités du temple. Et donc, on utilisait une autre monnaie simplement pour le temple, les shekels, et il y avait des personnes donc, qui procédaient au change pour cela. Donc, à première vue, on peut se demander, mais quel mal y a-t-il à cela? Mais le problème essentiel n'était pas la vente d'animaux sacrificiels ou le changement de monnaie en tant que tel. Le problème, c'était l'écart devenu immense entre la vocation du temple et sa réalité. La vocation du temple, c'était d'être, verset 17, une maison de prière pour toutes les nations. Le temple symbolisait la présence de Dieu parmi le peuple. Et la vocation d'Israël est par extension la vocation de tous les hommes d'être ses adorateurs. Voilà ce que symbolisait le temple. Et au lieu de cela, le temple était devenu réduit à une sorte, à un lieu de commerce religieux en grande partie. L'adoration était encore là dans un sens, mais elle avait été commercialisée et institutionnalisée. Aller au temple, c'était devenu un lieu de procédure rituelle, pour beaucoup de gens en tout cas. Sans doute que certains le faisaient sincèrement. Alors voilà, on allait au temple de temps en temps, ça faisait partie de la vie quotidienne. On allait acheter une colombe ou deux, ou si on était plus riche, un bouc par exemple, et on confie cela au prêtre. On fait la queue pour changer de monnaie, etc. Et puis c'est les hommes qui faisaient ça, et bien par ailleurs, ils vivaient leur vie sans forcément se préoccuper beaucoup de Dieu. Et quand on pense à la manière dont Dieu s'est révélé à Israël dans le désert, à la réalité stupéfiante d'un Dieu trois fois saint, tout autre, qui vient symboliquement établir sa résidence parmi les hommes, on prend conscience du privilège inexprimable du peuple d'Israël. Et on prend conscience de la gravité de sa banalisation en un fonds de commerce religieux, la banalisation du temple. Alors soyons clairs, nous n'aurions pas fait mieux. Nous avons la même tendance humaine d'essayer de contrôler Dieu et d'essayer de contrôler l'adoration de Dieu comme si nous pouvions maîtriser le Seigneur de l'univers. Or, dans l'Ancien Testament déjà, plusieurs prophètes avaient annoncé une purification du temple à venir, une ère nouvelle où l'homme retrouverait le sens de l'adoration de Dieu. Par exemple, le prophète Malachi, au début du chapitre 3 de son livre, évoque au nom de Dieu un jour où le messager de Dieu, qui d'ailleurs est lui-même appelé le Seigneur, arrivera dans son temple à l'improviste. Chapitre 3, verset 1. Et il viendra, nous dit-il, pourquoi ? Pour purifier les fils de Lévi, c'est-à-dire les prêtres, de sorte que l'offrande de Juda et de Jérusalem sera douce au Seigneur. Chapitre 3, verset 4. Le prophète Zacharie, lui, écrit ceci à propos du jour où Dieu interviendra pour renouveler la vie spirituelle de son peuple. Il écrit ceci, « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur des armées en ce jour-là. » Zacharie 14, verset 21. Donc Jésus était parfaitement conscient du sens de son geste. En chassant les marchands du temple, il se révèle comme le Seigneur qui vient ramener à lui son peuple, qui vient purifier son adoration, qui vient inaugurer une ère nouvelle dans l'adoration de Dieu. J'y reviens dans un instant. Mais à ce stade, on commence à discerner le lien entre l'épisode du temple et l'épisode du figuier. Le temple, comme le figuier, ne remplit pas sa vocation. Il ne porte pas de fruits. Lui, dont la vocation était l'abondance, est devenu stérile. Deux signes, donc, mais deux signes convergents, porteurs du même sens. Et j'en viens maintenant aux deux leçons que le texte nous conduit à tirer. L'une des leçons que le texte met en relief est implicite. Elle nous est suggérée par Marc, qui rédige cet évangile, dans sa manière de faire le lien entre les deux épisodes, celui du figuier et celui du temple. Et si on réfléchit bien au lien entre les deux histoires, on comprend mieux la « malédiction » entre guillemets prononcée par Jésus à l'égard du figuier. Si il y a effectivement un parallélisme très proche entre les deux épisodes, eh bien, lorsque Jésus déclare que personne ne pourra plus se nourrir de ce figuier, il déclare symboliquement la fin de l'ère du temple et le début d'une nouvelle ère concentrée sur sa personne. Lui qui est Dieu incarné, lui qui manifeste réellement la présence de Dieu, alors que le temple ne faisait que la symboliser. En Jésus, Dieu est véritablement là. Pourquoi un temple ? Qui a besoin d'un temple quand Dieu réside parmi son peuple au sens le plus fort possible ? Jésus-Christ est bel et bien Emmanuel, Dieu avec nous. Et depuis lors, depuis cette révolution, c'est en Christ et c'est par son intermédiaire que Dieu est adoré. Ce n'est pas dans un lieu particulier, que ce soit un temple, que ce soit une cathédrale ou même le 21 rue Médéric. C'est en Jésus que Dieu est adoré. Comme Jésus l'explique dans un autre épisode à la femme samaritaine près du puits, « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Jean 4, versets 21 à 23. Donc il ne faut pas s'y méprendre. Jésus a purifié le temple, non pas pour réformer la pratique du judaïsme, il l'a fait pour symboliser le commencement prochain, puisque c'est après sa résurrection que véritablement cela a entièrement pris corps, pour symboliser le commencement prochain d'une ère nouvelle, où le temple physique de Jérusalem n'aurait plus sa place, puisqu'il serait remplacé par le temple réel qu'est Jésus-Christ, lui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, comme l'écrit l'apôtre Paul, en Colossiens 2, verset 9. Et si on considère ce texte dans son contexte plus large, dans l'évangile de Marc, on doit aller, je crois, un peu plus loin encore, et considérer que l'assèchement du figuier fait écho au jugement de Dieu sur l'ancienne alliance qu'il avait conclue avec Israël. Israël a échoué à remplir sa vocation d'être un peuple qui devait porter du fruit et montrer la gloire de Dieu aux nations. Et encore une fois, nous aurions échoué et nous avons échoué tout autant qu'eux. Cet échec est ultimement un échec humain à obéir à Dieu. Et c'est précisément pour cela que Jésus a récapitulé en sa personne l'humanité devant Dieu. Il s'est fait, on nous l'a rappelé tout à l'heure, notre substitut pour subir à notre place la peine que méritait notre infidélité. Lui seul peut porter le fruit que ni Israël ni nous ne parvenons à porter sans lui. Et quand on a saisi cela, on comprend à quel point le temple de Jérusalem, avec son commerce, ses procédures, son train-train, était devenu dérisoire et dépassé par rapport à l'incarnation de Dieu en Christ. Et conformément à ce que l'Ancien Testament annonçait déjà, le temps d'un profond renouvellement était venu. Le figuier s'était asséché et ne portait plus de fruits. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui, en demeurant en Jésus, qui nous donne cette image par ailleurs d'un cep, d'un arbre sur lequel Dieu nous a greffé, que nous pourrons porter du fruit. Donc voilà pour la première leçon que nous donne le texte, la fin d'une ère et le début d'une ère nouvelle pour l'adoration de Dieu. La deuxième leçon est plus explicite dans le texte et elle est associée à l'image du figuier. Et c'est Jésus lui-même qui la livre à ses disciples à la fin de notre texte. Suite à l'étonnement de Pierre devant l'efficacité spectaculaire de la parole de Jésus, Jésus ajoute ceci, verset 22, Jésus leur dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de déplacer des montagnes par la prière, en essayant peut-être de vous concentrer au maximum pour avoir assez de foi. « Oh, je vais y arriver !» Et ça n'a pas marché une seule fois. Ce serait mal comprendre, je crois, le propos de Jésus. Bien sûr, c'est ici une hyperbole, une exagération délibérée qu'il utilise, comme il le fait souvent. Non pas que Dieu ne puisse pas déplacer une montagne, bien sûr que si, il en est le créateur. Mais ses réponses à nos prières ont du sens, un sens dont lui seul a la pleine maîtrise. Nous sommes à première vue déstabilisés par ce verset. En tout cas, moi, je le suis souvent. Parce qu'après tout, nous savons par expérience qu'il y a des demandes auxquelles Dieu ne répond pas comme nous le souhaitons. Je suis sûr que chacun ici pourrait témoigner de quelque chose qu'il a ou qu'elle a demandé à Dieu et que Dieu ne lui a pas accordé. Il me semble qu'il faut garder en mémoire deux choses pour bien comprendre ce que Jésus veut dire. Tout d'abord, que le plein accomplissement de ce qu'il promet ici aura lieu dans le monde nouveau à venir, dans la nouvelle création, lorsque nous verrons Dieu face à face, comme l'écrit l'apôtre Paul. Aujourd'hui, notre relation avec Dieu, elle reste entravée par la réalité du monde déchu dans lequel nous vivons et qui nous affecte encore et qui affecte notre foi. Nous pouvons déjà vivre quelque chose de la foi totale dont Dieu parle ici, mais il me semble que nous ne pouvons pas encore le vivre dans sa plénitude. Et qui ici pourrait prétendre ne pas hésiter dans son cœur pour reprendre les mots de Jésus? On n'ose pas, on n'arrive pas à croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Mais il y a un autre élément à prendre en compte, c'est la nature de ce que nous demandons et le sens des réponses de Dieu, que lui seul connaît. Si nous demandons à Dieu ce que lui-même affirme vouloir nous donner, eh bien, nous pouvons être certains de sa réponse. Et je crois que le problème vient en partie du fait que souvent nous demandons en priorité des choses dont nous ne pouvons pas être sûrs que ce sont les meilleures choses ou des bonnes choses aux yeux de Dieu. Et souvent nous négligeons des choses nombreuses pourtant où Dieu lui-même nous dit « Ces choses sont bonnes et vous pouvez y aller, vous pouvez me les demander, je vous les donnerai ». Et nous avons tendance parfois à négliger ces choses-là pour mettre tout l'accent sur des choses où finalement on n'est pas sûr que c'est ce qui est bon aux yeux de Dieu. Si nous demandons à Dieu plus de foi, plus d'espérance, plus d'amour, plus de consécration, plus de persévérance, est-ce qu'on imagine Dieu dire « Non, toi, la persévérance, je n'ai pas envie de te la donner. L'amour, non, ça va comme ça, c'est très bien. Tu peux garder l'amour que tu as maintenant, je ne vais pas forcément t'en donner plus. » Est-ce qu'on imagine cela? Je crois que Dieu nous invite à demander en priorité les choses dont nous savons qu'il veut nous les donner. Et nous nous retrouvons ainsi dans la situation de celui qui croit qu'il l'a reçu. Il y a bien d'autres sujets pour lesquels nous pouvons légitimement prier, bien sûr. Jésus apprend à ses disciples de prier pour leur pain quotidien, pour les besoins de la vie quotidienne. C'est tout à fait légitime. Nous pouvons prier légitimement pour toute une quantité de sujets qui nous concernent ou qui concernent nos proches, sans avoir la certitude de la manière dont Dieu va nous répondre. Mais pourquoi ne pas commencer par demander les choses que Dieu lui-même nous invite à demander ? Demandez et on vous donnera. Et ce d'autant plus que nous avons dans ce cas la certitude que ces choses sont bonnes et selon la volonté de Dieu. À première vue, le lien entre l'épisode du figuier et l'enseignement de Jésus sur la foi n'est pas évident. On a presque l'impression qu'il passe du coq à l'âne, qu'il change de sujet. Mais ce qui a frappé Pierre, c'est l'efficacité de la parole de Jésus. Or, si Jésus a une parole parfaitement efficace, c'est parce que sa communion avec le Père et l'Esprit est parfaite et totale. Et Jésus nous dévoile, je crois, le sens de la foi en nous montrant que croire en Dieu, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir une confiance profonde en la réalité de sa puissance et en sa bonne volonté. Dieu aurait pu plaquer sur nous ses projets, Mais au lieu de cela, il nous invite à en être les acteurs directs. Ce sont les projets de Dieu, mais il nous invite à en être les acteurs. Et c'est le miracle de la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose qui vient surprendre Dieu, mais en même temps, c'est un moyen extraordinaire et privilégié que Dieu a choisi d'utiliser Dieu en priorité ce qu'il y a de meilleur. Examinons-nous nous-mêmes à ce sujet. La seconde est simple également, est-ce que nous portons du fruit ? Dieu a mis un terme à l'ancienne alliance conclue dans le désert avec Israël par l'intermédiaire de Moïse. Il a mis un terme à cette ancienne alliance parce que son peuple, incapable d'obéir à cette alliance, ne portait pas de bons fruits, comme les prophètes d'Israël l'ont dénoncé encore et encore. Si nous ne portons pas de fruits, autrement dit, si nous ne vivons pas une vie qui produit des pensées et des actes qui sont conformes à ce que Dieu aime, nous avons de quoi nous inquiéter. Il ne s'agit pas de dire que Dieu pourrait nous retirer sa fidélité. Elle nous est acquise en Christ éternellement si nous lui avons confié notre vie. Mais par contre, notre fertilité spirituelle est un test d'authenticité. Est-ce que véritablement notre foi est ancrée en Jésus-Christ ? Est-ce que c'est en lui, par lui, pour lui que nous vivons ? Alors vous me direz, très bien, mais par où commencer ou par où continuer pour porter du fruit ? Eh bien, pourquoi ne pas commencer par demander à Dieu, en manifestant cette foi, qui sait que Dieu donnera ce qu'il a promis. La volonté de Dieu en la matière est certaine. Il n'y a pas de doute sur ce que Dieu veut. Jésus a dit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. » Et donc, au fond, les deux questions que j'ai posées se rejoignent. Est-ce que nous demandons ce qu'il y a de meilleur ? Eh bien, pour nous assurer que nous demandons ce qu'il y a de meilleur, demandons à Dieu de nous aider à porter du fruit pour lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te remercier pour cette assemblée. Je voudrais te demander de la bénir et de la fortifier, de permettre que ce peuple d'adorateurs, dans son expression locale ici à la Garenne-Colombes, puisse se construire encore et encore sur la pierre angulaire qu'est ton Fils Jésus-Christ, de manière à former un temple spirituel, à être une communauté d'adorateurs qui proclame tes hauts faits au monde qui nous entoure, qui proclame qui tu es, qui proclame la puissance et la gloire de ta bonne nouvelle. Seigneur notre Dieu, je te prie pour que tu nous aides à être de ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité et qui sont conscients du privilège magnifique que tu nous as offert en permettant que nous ne soyons plus soumis à une loi religieuse rituelle, mais que nous puissions par la foi nous approcher librement de toi. Parce que, en Christ, si nous lui avons donné notre vie, nous savons, Père, que nos péchés ont été oubliés, qu'ils ont été engloutis. Nous savons que tu nous regardes avec faveur et tu nous tiens dans ta présence pour l'éternité, au nom de ce que tu as fait en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour que personne ici ne se prive davantage de cela. S'il y en a encore qui ne te connaissent pas personnellement, je te demande de toucher leur cœur et de permettre qu'ils comprennent la relation impérissable à laquelle tu les invites. Au nom de Jésus, Amen.